Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont fait revivre Marie-Antoinette. Après Jacques Demy et Stéphane Zweig, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'une réalisatrice hollywoodienne, Sofia Coppola, qui a tenu elle aussi à nous livrer sa vision de Marie-Antoinette. Une vision qui, disons, a plu ou déplu. Pour certains, ont été choqués. Moi, j'avais plutôt bien aimé.
Non, Stéphane, vous aviez été extrêmement choqué à l'époque. Ça m'arrange par rapport au début de ma chronique, qui est une fiction. Vous aviez été extrêmement choqué à l'époque, puisqu'il avait fallu, à la suite de la projection, vous placer sous une tente à oxygène. En reprenant vos esprits, 3 défibrillations plus tard, vous auriez déclaré « c'est comme si on l'avait tué une deuxième fois ». Pourquoi une telle polémique autour de Marie-Antoinette de Sofia Coppola ? Peut-être ce parti pris de casser tous les codes du film d'époque et de faire danser la reine sur The Cure entre 2 séances de shopping avec ses dames de compagnie que Coppola nous présente carrément comme ses personal shoppers avant l'heure dans un Versailles où tout le monde parle anglais avec l'accent ricain. Oui, même si Stéphane en a fait un ulcère, Sofia Coppola a sauvagement dépoussiéré Marie-Antoinette pour en faire une icône pop, sexy, ok ? Un peu superficiel aussi peut-être, mais qui ne l'est pas, hein Stéphane ?
Ah ça, j'adore les mâles, Vuitton.
Vous voyez, on a tous un côté bling. Sofia, elle, l'assume. Et puis entre nous, ça lui fait pas de mal à la mère Antoinette, ce petit relooking. Avant le film de Coppola, Marie-Antoinette, c'était quoi ? Un portrait un peu jauni d'une Autrichienne avec un balai dans le cul, dans un livre d'histoire de 5e, un spectacle pyrotechnique trop long à Versailles avec des intermittents moyennement impliqués, la voix off de Stéphane Bern et le personnage du comte de Fersen qui avait oublié de fermer sa braguette. Bonjour la magie. Non, longtemps, le personnage de Marie-Antoinette a été aussi peu excitant que ce menuet en ré mineur de Lully. Jusqu'à ce que Sofia Coppola s'en empare pour en faire une reine rock'n'roll. Une reine enfin dépeinte comme une femme, avec ses questionnements de femme, ses désirs.
Mais ça me dégoûte.
Ne soyez pas vieux jeu, Stéphane, ne soyez pas vieux jeu. D'autant que Sofia n'a pas fait complètement n'importe quoi. Elle dit s'être basée sur la biographie de l'historien Antonia Fraser, Marie-Antoinette, The Journey, un récit ultra détaillé et documenté qui donne à voir la reine sous un jour différent, plus intime. Sofia Coppola avait même écrit à cette historienne en lui disant, je cite, « Je serais capable d'exprimer ce qu'une jeune fille ressent face à la grandeur d'un palais, à l'abondance et à la démesure des vêtements, des fêtes, son rapport à la rivalité, le fait de devoir grandir au milieu de tout ça. Et pourquoi, selon vous, Sofia se sent-elle si proche de Marie-Antoinette ? Quel est donc leur point commun ?
Elle faisait un 95B.
Non, Stéphane. Sofia est aussi agrandie dans une famille puissante, richissime et célèbre. Un monde un peu déconnecté des réalités, car oui, vous l'avez deviné, je n'entretiens pas le suspense plus longtemps, elle est la fille de Francis Ford Coppola.
Non, c'est vrai ?
Mais si, Stéphane. Je vous l'annonce en exclusivité sur Europe 1, même que son cousin, c'est Nicolas Cage. Allez, quelques fun facts pour faire jeune, comme Castelo Lopez, qui pense qu'en distillant des fun facts avec des mots d'ado, on aura moins 40 ans. Non, mon vieux, t'échappera pas à la première coloscopie. Sofia Coppola est née le 14 mai 71. Dès ses 1 an, son père l'a fait tourner dans Le Parrain. Elle sera à l'affiche d'une dizaine de films, mais en 90, son interprétation de Marie Corleone dans Le Parrain 3 lui vaut une distinction dont elle se serait passée, le Razzie Award de la pire révélation de l'année et du pire second rôle féminin. Elle décide de stopper net sa carrière de comédienne. Dommage, hein, parfois à force de travail, on s'améliore. On pense notamment à la carrière de comédien de Stéphane, qui lui aussi avait failli tout arrêter après son premier rôle dans Attrape-moi la liane, un remake érotique de Tarzan.
Oh, j'ai fait mieux, non ?
Et qui a bien fait de s'obstiner, puisqu'aujourd'hui, il y a meurtre en Lorraine. Sofia, elle, abandonne et papillonne durant quelques années. Elle sera tour à tour photographe chez Vogue France, assistante de Karl Lagerfeld chez Chanel, confirmant la théorie selon laquelle s'appeler Coppola permet d'avoir des stages de troisième un peu plus cool que si tu t'appelles Bakayoko. Coucou les pauvres. Mais ce monde de glamour et de paillettes ne suffit pas à Sofia, qui le sait, ça coule dans ses veines, est une artiste. C'est donc finalement assez naturellement qu'elle se tourne vers la réalisation et ce thème qui va devenir son obsession, l'adolescence. Période charnière où les jeunes filles découvrent l'indépendance et la solitude aussi. Et dans son traitement de l'adolescence, Sofia se démarque très clairement de la série Premier baiser dont vous entendez le générique avec son premier film Virgin Suicide. Succès unanime, voilà Sofia propulsée réalisatrice la plus cool de sa génération. Suivront Lost in Translation puis donc le plus clivant Marie-Antoinette. Là encore, c'est le fait que cette reine ne soit en fait qu'une ado perdue dans un palais trop grand pour elle qui fascine. Elle se documente et découvre l'impensable. Marie-Antoinette a débarqué en France à seulement 14 ans et son mari ne l'a pas touchée pendant près de 7 ans. Vous vous rendez compte, Stéphane, de l'abnégation qu'il faut pour endurer ça ?
3 jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti.
Et voilà, vous n'auriez pas tenu hein, aussi longtemps.
longtemps.
Alors, bien sûr, s'attaquer au personnage de Marie-Antoinette quand on est une jeune Californienne, ça fait grincer des dents. Alain Delon, qu'elle avait imaginé en Louis XVI, lui fait comprendre gentiment que ça sera sans lui. Je le cite, ça sera sans lui. Peut-être n'avait-il pas envie d'interpréter un roi timide, fadas et ramolli.
À cause de sa seule couille.
Oui, Stéphane, on a tous les détails avec vous. Sophia ne se décourage pas et mène à bien ce projet titanesque, puisque tenez-vous bien, elle aura droit de tourner à Versailles pour la modeste somme de 15 000 euros par jour, des conditions très strictes, ne toucher à rien, changer tous les meubles, mettre des tapis partout pour ne pas abîmer le parquet. La seule fois où j'ai vu un propriétaire aussi chiant, c'était quand j'avais loué une villa à un animateur télé français à Paros sur Airbnb, déclarera la réalisatrice. Alors ça, c'est une connerie que j'avais écrite dans ma chronique. Oui. Stéphane me dit hors antenne
que c'est là que j'ai connu Sofia Coppola, puisqu'elle avait loué la maison à côté de la mienne.
C'est vraiment le monde des stars internationales est vraiment un tout petit monde.
Elle est charmante.
Elle est charmante, j'imagine. Oui, j'imagine.
Mais j'avais vraiment interrogé sur tous les problèmes historiques dans le film.
Ah oui, vous l'avez un peu mis
sur petite lacune du film.
Alors, le résultat, un film aux couleurs saturées où Kirsten Dunst, Marie-Antoinette, donc va de fête en fête dans un Versailles grandiose saupoudré d'anachronismes tendance, croquant des macarons la durée sur une musique des Strokes. Lully se retourne dans sa tombe, Alain Decaux remeurt. Le film est hué par les journalistes à Cannes. Certains évoquent, je cite, non pas un film, mais un numéro spécial de Vogue consacré aux coulisses de Versailles. D'autres soulignent que 2 heures pour assister à un clip musical où les rares fois où les personnages parlent, c'est pour comparer la qualité de leurs étoffes, c'est un peu long. Critique irrecevable selon moi, puisqu'ici même, dans Historiquement Vôtre, nos plus passionnantes discussions hors antenne avec Stéphane portent sur les vêtements et les matières. Et oui, c'est palpitant. Netflix, on peut vous l'avouer, nous a contactés pour négocier les droits de ces bouleversantes tranches de vie. Écoutez, franchement, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Sofia Coppola ?
Toujours aussi froid dans ce studio.
T'as froid ?
T'as pas froid? Ah non, toi, t'as.
Non, moi, j'ai jamais froid.
Moi, je peux pas mettre de laine.
Ah oui, vraiment?
Oui.
Mais aucun pull?
Non, c'est pour ça que j'ai toujours des sweats. Je suis obligé de mettre un truc un peu chaud, mais je peux pas si je supporte pas. Même le cachemire.
Et donc, jamais de col roulé?
Et non, alors que j'adorerais porter, je trouve ça très beau, les cols roulés. J'ai essayé d'en acheter un l'autre jour, mais même en synthétique, j'arrive pas à le mettre.
Bon, je vais remplir ma gourde.
Allez remplir votre gourde, c'est passionnant. Et en plus, il y a une chute. Je dis, mais que reste-t-il à Sofia Coppola, Stéphane? Parle-lui de notre projet.
Mais
c'est quand même autre chose que son Marie-Antoinette.
Merci Mathieu. Là, c'était 100% vrai.
C'est 100% vrai, puisque je ne savais pas, mais vous avez effectivement connu Sofia Coppola à Paros.
À Paros, oui. Exactement.
Le monde est si petit.
Eh ben bravo.
Pas tous les mondes sont aussi petits que celui-là.
C'est le monde de Stéphane et de Sofia.
Non mais c'est vrai, bon voilà, elle a fait un très joli Marie-Antoinette qui est portrait d'une future Diana, vous voyez, c'est le thème qu'elle a voulu garder dans son appréciation de
Marie-Antoinette. Oui, elle savait parfaitement qu'elle ne faisait pas une biographie pointue de Marie-Antoinette,
sûr.
Évidemment.
Mais c'est très respectable aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.